Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Ça roule radio. Écoutez, comme vous l'entendez probablement, mon nom est Marc Bouchard, mais comme je vous disais, comme vous l'entendez probablement, ça se peut que la qualité d'enregistrement soit un peu moins bonne cette semaine. Depuis quelque temps, j'ai des petits problèmes avec mon studio que j'essaie de corriger. Ça devrait se corriger rapidement parce que je vous le dis, c'est probablement l'une des dernières émissions que vous allez entendre sous cette forme-là. En effet, si tout va bien, mais en fait, là, tout va bien aller. La semaine prochaine, cette émission va vous parvenir en direct de la route 66, puisque je pars directement au cours des prochaines heures pour aller faire la totalité de la route 66 en 8 jours à peine au volant de véhicules Nissan. Donc, ça va nous permettre, bien entendu, de jaser. Je vais être avec mon collègue Jacques Déhaye dans la voiture. On va s'amener quelque chose pour s'enregistrer. Donc, ça se peut que vous ayez droit à un road trip de vieux garçon pendant la prochaine émission de Ça roule radio parce que c'est ça l'idée. Je veux vraiment vous faire découvrir ce que c'est. Parler des véhicules, bien sûr, qu'on va conduire. C'est le Nissan Kicks, le Nissan Altima et le Nissan Murano. Mais aussi vous faire découvrir les beautés de la route 66, un peu en live, un peu comme si vous étiez avec nous, parce que l'idée, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on part 8 jours. J'aimerais ça qu'on enregistre un 5 à 10 minutes par jour, vous raconter un peu ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, où on est passé. Et on est supposé en plus être accompagné d'un historien de la route 66. Donc, on devrait être en mesure d'aller voir des affaires qui sont assez uniques, il faut le dire. Ceci étant dit, pas de ce dont on va parler cette semaine. Je m'excuse, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission. J'étais coincé au salon de Los Angeles. Vous comprendrez donc que c'est un peu ce qu'on va faire cette semaine. On va faire le bilan du salon de Los Angeles. Je vais commencer en vous parlant de Nissan, justement, parce que j'étais là-bas, entre autres, pour aller assister au dévoilement de la toute nouvelle Nissan Micra. Un véhicule qui avait bien besoin d'être revampé, d'être redessiné. Il l'est complètement. Si vous le regardez, vous allez voir que c'est un véhicule qui désormais s'affiche comme étant un bébé Altima ou presque. On est vraiment dans un autre créneau, dans un autre monde. C'est une excellente nouvelle. C'est un véhicule qui avait bien besoin d'être changé. Donc, le style est là, le capot en V, bien sûr, est là, les phares que l'on connaît bien, ainsi que l'espèce de ce que Nissan appelle le toit flottant. Toit flottant, c'est intéressant parce que ça donne vraiment une silhouette tellement plus dynamique, tellement plus profilée. Moi, j'adore ça. Bref, ça donne un beau travail. La beauté, c'est qu'on n'a pas que refait l'extérieur, on a aussi refait l'intérieur. Donc, si vous regardez à l'intérieur de cette nouvelle Sentra, vous allez voir un intérieur où on a accordé beaucoup plus d'attention aux détails, où on a vraiment travaillé fort pour avoir quelque chose de plus moderne, un affichage plus pratique, un grand format. Bref, vraiment pas mal de belles choses. Et on a aussi et surtout revampé la motorisation. Et ça, je pense que c'est une grande nouvelle. On arrive donc avec un véhicule qui affiche maintenant 149 chevaux de puissance. C'est beaucoup plus. C'est 20% de plus, en fait, un meilleur couple. Et au bonheur pour les maniaques, au Canada, on va conserver la Sentra manuelle en version de base. Bon. Elle n'est pas offerte aux États-Unis, elle n'est pas offerte beaucoup ailleurs. Et vous allez me dire, oui, mais ils n'en vendent pas des Sentra manuels. Vous avez raison. Bon, là, la question, et là, c'est pure spéculation de ma part. Personne ne m'a parlé de ça, mais c'est tant qu'à lancer des choses dans l'univers, allons-y. Dites-vous que actuellement, il n'y aura plus de Nissan Micra au cours des prochaines années. Hein? C'est la dernière année de la Nissan Micra, vous le savez. Ce qui veut dire qu'il y a une coupe Nissan Micra actuellement, qui est une série de courses parmi les plus économiques en Amérique, qui va éventuellement disparaître puisqu'il n'y aura plus de Micra. Est-ce qu'on pourrait assister à une Nissan Sentra, une coupe Nissan Sentra peut-être, hein, avec une version manuelle qui serait pas très chère, qui serait comme presque complètement dénudée? Ça pourrait être une option fort intéressante, mais évidemment, ce ne sont que spéculations de ma part parce qu'il n'y a pas question pour le moment, et ça n'a pas été annoncé nulle part. Parmi les autres nouveautés, ben, je pense qu'il faut en parler absolument, c'est la Mustang Mach-E, la fameuse voiture électrique. La voiture électrique qui a tant fait crier à cause de son nom, ça me fait bien rire parce que, honnêtement, moi, je pense que c'est la seule façon de préserver ce nom-là dans l'histoire. En effet, vous aurez compris que si on ne fait pas ça, il n'y a pas grand-chose qui va se poursuivre pour Mustang, qui est en baisse de vente de 11% depuis l'année dernière. Et on sait que Ford ne mise plus du tout sur les voitures. Il abandonne la totalité ou presque de ses véhicules, de ses voitures, sauf justement la Mustang. Alors, je pense que c'est une belle façon de faire évoluer le nom et bien entendu de profiter de l'attirance marketing que fournit la Mustang à l'égard de tous les amateurs de voitures. Alors, c'est un véhicule dont l'autonomie va varier de 370 à 483 km, 0 à 100, 5,9. Il y a une version GT, bien sûr, version à propulsion ou intégrale, un intérieur qui a été complètement modifié par rapport à tout ce qu'on connaît chez Ford, avec un grand écran qui a l'air d'une tablette, avec un petit écran devant le conducteur, donc il n'y a plus de cadran du tout, là. C'est vraiment en haut de la planche de bord qu'il y a un écran. C'est magnifique, honnêtement. Pour m'être assis à l'intérieur, je peux vous dire que c'est très, très beau. Est-ce que ça va être suffisant pour attirer les vrais amateurs de Mustang? Écoutez, j'ai un doute, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit à eux que s'adresse nécessairement ce véhicule-là. C'est davantage au niveau d'amateurs de technologie, d'innovation, de véhicules électriques. Je pense qu'on n'avait pas le choix de faire revivre ça, ce nom-là, et je pense que c'est une belle façon de le faire. Parmi les autres nouveautés qu'il faut mentionner, il y a celle de Toyota, le RAV4 Prime, qui est un RAV4 hybride branchable avec une autonomie de 63 km. Je pense que ça va vraiment frapper fort parce que déjà le RAV4 est un excellent véhicule qui a vraiment beaucoup d'adeptes et beaucoup d'amis. C'est un véhicule donc qui a fonctionné très bien et qui continue de bien se vendre à tous les niveaux. Donc je pense que c'est une bonne chose pour Toyota. Avec la version Prime, ben, c'est la sensiblement la même technologie qu'on utilise pour la Prius Prime. On sait que ce sont des véhicules qui sont fiables, on sait que ce sont des véhicules qui sont efficaces, donc ça devrait théoriquement permettre considérablement de consolider les ventes, si l'on veut, de ce Toyota RAV4. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu la Kia Seltos. La Seltos, non, ce n'est pas la Kona version Kia. Plusieurs personnes m'ont posé la question. En fait, c'est plutôt la version Venue, parce qu'on sait que Hyundai a aussi dévoilé le Venue. Donc, cette semaine, il y avait d'ailleurs le lancement officiel en Nouvelle-Orléans de la Venue. Moi, je vous parle vraiment de la Seltos qui est un peu plus mignonne, un peu plus carrée et qui offre le rouage intégral de série, ce que la plupart de ses rivaux ne font pas, là. Pensez au Nissan Kicks, pensez au Venue, pensez au Toyota CHR, on n'a pas ce rouage intégral-là. Donc, on est vraiment dans un monde un peu à part avec la Seltos, qui va se concurrencer, se coltailler, si vous voulez, avec le CX-3 de Mazda. Donc, des véhicules qui sont vraiment différents, mais la Seltos a attiré une foule, d'autant que Kia à Los Angeles avait présenté aussi une espèce de prototype qu'on appelle le X-Line, qui sont des véhicules plus. C'est des prototypes, hein, ça sera jamais en production, là. Mais c'est vraiment des véhicules qui sont faits davantage pour aller hors route et ça vaut vraiment le coup d'œil. Moi, je trouvais ça très joli. Dans les autres nouveautés dont il faut parler, il y a la Lexus LC Cabriolet. Écoutez, c'est une voiture absolument magnifique. Peu importe la fiche technique de ce véhicule-là, et Dieu sait qu'elle est quand même impressionnante, là, avec le même moteur que la LC 500, mais c'est surtout un véhicule qui a du style. Déjà, la version coupée a l'air d'un prototype. Quand moi je l'ai conduite, elle était argentée et les gens pensaient que je conduisais un concept car. C'est pas du tout le cas, c'est un véhicule de production. La version cabriolet est tout aussi jolie, tout aussi réussie, avec un toit que l'on peut rétracter en quelques secondes à peine jusqu'à 50 km/h. Donc, ça prend 15 secondes pour le retirer et le remettre. Ça vaut vraiment le coup. Écoutez, je le sais qu'on n'en vendra pas beaucoup des LC Cabriolet, on n'en vend déjà pas beaucoup des LC 500, mais elle est magnifique, elle est absolument superbe et c'est une belle réussite au niveau du style. Il y a d'autres voitures aussi qui ont frappé au niveau du style. Je pense à la Audi e-tron Sportback. On vous a déjà parlé de la Audi e-tron, véhicule électrique là, de Audi. On a repris la même motorisation pour aller du côté de la Sportback, qui a vraiment une gueule un peu plus racée, un peu plus élaborée. Et c'est absolument superbe aussi. Moi, je l'aime beaucoup. Il y avait aussi le RSQ8, là, qui est un véhicule complètement dément de Audi. Écoutez, 500, 600 HP à peu près, 600, Mais c'est plus que ça, en fait, là. Pour être tout à fait honnête, attendez, je vais vous trouver l'information exacte parce que vraiment, ça vaut la peine. On dit que c'est un véhicule, en fait, qui est littéralement en compétition avec le Lamborghini Urus, qui affiche un V8 biturbo, complètement fou. Écoutez, c'est spectaculaire. Je cherche le parce que j'ai beaucoup de données, là, sur des trucs, mais on parle à peu près de 670 chevaux pour le véhicule. Je pense que c'est amplement suffisant pour un utilitaire sport. Parlant d'utilitaires sport qui n'ont pas de limite chez Mercedes-Benz, on nous a aussi présenté les GLE et GLC en version AMG 63S, deux utilitaires sport de 602 chevaux, plus une aide hybride d'hybridation légère qui ajoute un 21 chevaux. C'est énorme. Encore une fois, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment un grand besoin de ça? Petit doute, mais en même temps, c'est un véhicule qui est extrêmement impressionnant, tout comme on a dévoilé aussi le GLS Maybach. GLS Maybach, écoutez, c'est le summum du luxe chez Mercedes. Un autre véhicule qui va se vendre plus de 300 000 $, qui est superbe, mais qui fait plus l'objet d'une limousine, en fait, que d'une véritable voiture, d'un véritable utilitaire sport. BMW s'est lancé dans la chasse à la performance aussi, parce qu'on a dévoilé, entre autres, la M8, grand coupé. Qui est une machine de guerre avec ses 617 chevaux. On avait la Mini John Cooper Works GP avec 301 chevaux, ce qui est extrêmement, extrêmement puissant pour un petit véhicule de cette taille-là. Et on avait entre autres la CS2, la M2 CS plutôt, de BMW qui était là avec ses 444 chevaux. Encore une fois, quelque chose d'assez puissant. 301 chevaux aussi pour la Grand Coupe de la série 2. Un véhicule que, bon, mon cœur est partagé. On dit beaucoup de bien de cette voiture-là pour ceux qui l'ont conduit. Pour la regarder, je vous avoue qu'en termes de look, j'étais pas si convaincu. C'est pas laid, mais on n'est pas nécessairement dans quelque chose d'aussi spectaculaire que ce à quoi je me serais attendu. Bref, c'est un beau véhicule, mais c'est pas si au-delà des attentes que ça. Donc, quand même à surveiller du côté de chez Mini. Chez Chevrolet, on n'avait pas beaucoup de surprises, sauf le Trailblazer. Trailblazer qu'on avait déjà dévoilé en Asie. Petit véhicule, encore une fois, rouage intégral, partagé avec le Blazer. Partie avant, partagée avec le Blazer. Dimension évidemment beaucoup plus petite. Deux petits moteurs, 1,2, 1,3 litres turbo. Un véhicule donc qui devrait, encore une fois, là, aller faire concurrence dans un marché qui est déjà ultra compétitif, qui est celui des petits utilitaires sport compacts. Encore une fois, on est dans un monde assez particulier. Du côté de chez Hyundai, on nous a présenté entre autres la Vision T, qui est la septième déclinaison d'un même design, si l'on veut, le HDC7. C'est un prototype qui est joli, qui est mignon, qui affiche surtout des phares chromés, un peu comme la nouvelle Sonata le fait avec ses feux de position. C'est un véhicule qui est un hybride branchable. On n'a pas vraiment parlé mécanique. C'était plutôt un exercice de style et de raffinement, ce qui n'était pas une mauvaise idée. On a aussi profité pour présenter la nouvelle Ioniq, là, mais on a qu'amélioré un peu la capacité, mais dans l'ensemble, rien de très majeur. Pour le reste, ben là, on est vraiment dans la voiture Ioniq traditionnelle avec quelques petits changements. Écoutez, ça fait pas mal le tour. Il y avait d'autres petites affaires à gauche et à droite, là, mais je pense que ça fait pas mal le tour des dévoilements les plus marquants. Parce que ce qui était assez unique, c'est que il y avait des, comment je pourrais dire, il y avait des conférences de presse, mais il y avait ce qu'on appelait des réceptions médias. C'est-à-dire que c'était des véhicules qui avaient déjà été dévoilés ailleurs et qu'on nous offrait pour la première fois en sol nord-américain et parfois même pas pour une première fois en sol nord-américain. Alors, je pense que ça, c'est quand même intéressant, mais c'est sûr que ça fait moins de nouveautés. On a quand même pu voir le Honda CR-V hybride. Ben, on est chanceux, nous on l'a vu, vous ne le verrez pas parce que c'est un véhicule qui ne viendra pas, du moins pour l'instant, au Canada. Une décision que je ne comprends toujours pas de la part de Honda puisque le CR-V est extrêmement populaire. Les motorisations hybrides sont tout aussi populaires chez nous. Donc c'est un peu difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais c'est le choix que l'on a fait. Parmi les autres trucs qui étaient quand même dignes de mention, le Land Rover Defender qui était là, qui est magnifique, qui est probablement mon préféré à ce jour. La particularité du Defender, c'est qu'on avait aussi amené celui qui a participé au dernier film de James Bond. Et ça, c'est particulier parce que, bon, en théorie, c'est un véhicule qui avait fait beaucoup d'hors-route, donc il était même poqué à l'arrière pour vrai. Et il y avait comme de la boue partout sur le véhicule. Or, c'était pas de la boue, c'était de la peinture. Alors, c'était quand même assez unique comme principe. Mais oui, donc, on a vu le Defender. Et j'ai vu un véhicule qui est complètement fou, qui est la nouvelle déclinaison de la Karma. Écoutez, c'est un véhicule extrêmement profilé, un véhicule extrêmement rapide. On dit qu'il a 1100 chevaux, qu'il a un couple de 10 400 livres et qu'il fait le 0-100 en 1,9 secondes. Bon, vous aurez compris que c'est un prototype qu'on n'a pas vu nulle part en format de production. Alors évidemment, on n'est pas là. Alors ça fait le tour du salon de Los Angeles. Et là, vous me dites, oui, mais il n'a pas parlé du Cybertruck de Tesla. Vous avez raison. Je me garde quelques minutes dans la deuxième partie après la pause où je vais vous parler entre autres d'un essai de Volvo V60 et V60 Cross Country que j'ai effectué. Mais aussi, je vais glisser quelques mots du Cybertruck parce que le Cybertruck, il faut le rappeler, ce n'est pas au salon de Los Angeles qui a été dévoilé, c'est en marge du salon. Et c'est de ça dont il va être question. Alors, on fait une courte pause et on revient. Alors, on est de retour. Re-bienvenue à cette émission de Ça roule radio. Je m'excuse encore pour peut-être la qualité d'enregistrement qui est un peu moins bonne. Petit problème de studio qui devrait se corriger. Et il y aura des changements au cours des prochaines semaines. Je vais vous en parler en fin d'émission, si vous permettez. Mais pour le moment, on n'est pas encore là parce que je suis sûr que vous retenez tous votre souffle afin de savoir tous les détails de ma pensée sur le Cybertruck de Tesla. Écoutez, je suis très heureux que Tesla ait lancé le Cybertruck. D'abord parce que maintenant, vous allez arrêter de m'écœurer avec le fait que j'ai eu un Aztec. Il y a enfin une voiture plus laide qu'un Aztec qui se retrouve sur le marché. Sérieusement, c'est, je pense, un excellent coup de marketing de la part de Tesla. Est-ce que c'est un véhicule qui va atteindre les succès espérés? Écoutez, si on se fie aux réservations, c'est une chose, mais il faut être logique quant à ces réservations-là. Alors, ce qui vous permettez, on va prendre le véhicule, on va l'analyser un petit peu. D'une part, le look, écoutez, c'est un choix, c'est un look. Je ne pense pas que la version de production va avoir l'air de ça. Je pense qu'on voulait absolument sortir quelque chose qui se distinguait. Comme tous les prototypes, ils vont être modifiés en cours de route. Je ne serais pas du tout étonné que ça change de style pas mal, mais ça a l'avantage d'être ce que c'est et ça nous a fait parler. On en parle encore et je pense que ça, déjà, c'est une réussite pour Tesla. On ne parlera pas non plus de la présentation avec les boules de métal qui ont craqué les fenêtres, là. De toute façon, avez-vous tant besoin d'un camion blindé? Je ne pense pas que ce soit nécessairement significatif. On a voulu faire un show, on a manqué notre coup. Ça arrive dans les meilleurs spectacles du monde et je pense que c'est triste, mais c'est pas tragique. Le problème, en fait, il est, moi, je pense, à plein d'autres niveaux. On nous promet un véhicule qui est capable de. Ben, en fait, écoutez, à l'origine, on nous disait, il va être 20. C'est pas moi, là, c'est Elon Musk qui disait, il va être 20 fois plus puissant que le Ford F-150. Je suis pas fort en masse, mais si tu remorques 14 000 livres, puis qu'un Ford F-150 en remorque entre 10 et 12 000, ben ça fait pas 20 fois là. Fait que, oui, c'est mieux. Oui, c'est des capacités impressionnantes, mais on n'a rien vu de la part des autres encore. On sait que ce véhicule-là va n'arriver qu'à la fin de 2021, probablement, 2022, et que les autres auront le temps de réagir, penser à Rivian. Donc, est-ce que c'est si avant-gardiste que ça de parler de 14 000 livres de remorquage, de 3 700 livres de payload, de chargement à bord? Écoutez, moi, je pense que c'est pas si exceptionnel. C'est bien, c'est excellent, on domine le marché, mais est-ce que pour le moment, je dis on domine le marché, mais est-ce que c'est suffisant pour vraiment dire qu'on se distingue et qu'on ressort du lot? Petit doute déjà là. Si on continue comme ça, évidemment, pour avoir 800 km d'autonomie, ça c'est vraiment définitivement impressionnant. Sauf qu'un collègue à moi qui est ingénieur en plus d'être journaliste, soulignait que pour arriver à faire ça, selon les normes actuelles de Tesla, il faudrait entre 8 et 900 kilos de batterie à bord. Or, 8 à 900 kilos, vous comprendrez que si c'est ça, ça peut considérablement limiter la possibilité de charge. Donc, est-ce que le 800 km d'autonomie va être capable de ramasser le 3 500 livres ou de remorquer 14 000 livres? Encore une fois, on est dans le questionnement, même si ce sont des affirmations de la part de Tesla. Ensuite de ça, ben, il y a bien sûr là, toute la question de visibilité, de bon, ça, on n'est pas là, je vous l'ai dit, ça, c'est question de style. Quant aux matériaux utilisés, écoutez, ça fait un bien beau show, là. Puis oui, on a frappé à grands coups de masse sur le véhicule et on était très content de nous montrer que ça résistait. La question, cependant, c'est est-ce que c'est une bonne affaire? Parce que quand on aura un accident, une partie, en fait, du système de sécurité de n'importe quel véhicule, c'est quand on est en mesure de prendre l'énergie et de la répartir dans les pièces d'alliage de chaque côté. Donc, ce sont des aciers de différentes densités qui sont conçus pour absorber l'énergie, donc pour se replier sur elles-mêmes en absorbant l'énergie. Or, si ce matériau-là est aussi rigide que ça revient à faire des pare-chocs en acier comme on l'a toujours fait. Et donc, il faudra voir qu'est-ce que ça va donner dans les résultats de crash test, parce que pour le moment, on ne les a pas vus. Je ne reviendrai même pas sur le test de remorquage entre Ford et le Tesla Cybertruck parce que, bon, c'est un gadget, encore une fois, au même titre que les balles d'acier lancées dans les fenêtres qui ont craqué. Alors, pour ça ne vaut pas la peine. Là où il faut en arriver, cependant, c'est quant au nombre de réservations. On nous dit, là, il y a eu, imaginez, 250 000 réservations. Je suis très heureux pour Tesla si c'est vrai, et c'est probablement vrai. Vous savez, des maniaques pour les personnes qui ont fait ça. C'est assez frappant de voir à quel point les gens se sont soudainement trouvé une envie d'avoir un camion capable de remorquer 14 000 livres. Je suis assez étonné. Il faut savoir que c'est 150 pièces la réservation, que ça se rembourse très très facilement et que c'est une belle façon pour les maniaques de Tesla d'aller encourager leur compagnie fétiche tout en disant, regardez, nous on vous appuie. On ne veut pas nécessairement de camion, mais on vous appuie. Je pense que ça fait beaucoup partie de ça et que c'est un exercice plus de relations publiques que de réalisme économique. Parce que je maintiens qu'il n'y ait pas question que les gens se soient soudainement trouvé une folle envie et un fou besoin pour les camions de cette taille-là. Alors honnêtement, ça, j'ai un doute. Et les investisseurs semblent avoir un doute aussi parce que, écoutez, l'action est rendue à 328 $ au moment où je vous parle, ce qui est quand même impressionnant puisque la veille du dévoilement, elle était à 359 $. Donc, on a perdu 31 $ ou à peu près l'action depuis la présentation du modèle. C'est vraiment, écoutez, c'est particulier parce que on ne s'attendait pas à ça, je suis certain, du côté de Tesla. Donc, on verra ce que ça va donner. Est-ce que le Cybertruck a un avenir? Oui, définitivement, ça va en prendre un camion chez Tesla. Est-ce que ce sera comme celui que l'on connaît présentement? Je me permets d'en douter. Il y aura, à mon sens, des changements importants. On va maintenant tomber dans quelque chose d'un peu plus traditionnel, parce que j'ai eu l'occasion au cours des dernières semaines de faire deux essais consécutifs de véhicules que j'ai beaucoup, beaucoup aimés. Le Volvo V60 dans sa formule inscription et dans sa formule cross-country. Dans les faits, c'est la même plateforme, le même véhicule ou à peu près, que l'on a complètement redessiné, qui est vraiment plus sportif, plus beau, plus profilé, qui a un style. Moi, j'adore le style de Volvo. J'aime beaucoup la façon dont c'est fait. J'aime beaucoup la façon dont c'est intégré, si vous voulez, le fameux marteau de tar, là, les phares qu'il y a de chaque côté, la façon dont le capot s'étire, la calandre avant, les blocs optiques arrière que l'on reconnaît, mais la forme toute arrière que l'on reconnaît et les blocs optiques aussi qui sont vraiment faits de façon particulière du côté de chez Volvo. Vous le savez, quand on voit venir un Volvo de soir, on sait parfaitement que c'est un Volvo. Donc, c'est le fun qu'on ait conservé cette personnalité-là et que l'on l'ait fait de cette façon-là. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer deux versions, je vous l'ai dit, de ça. Le T6 Ti inscription qui est plus comment je pense, qui est le plus haut de gamme de toute la gamme, qui est doté d'un moteur 4 cylindres 2 litres de 316 chevaux, 295 livres-pieds, moteur turbo-compressé et surcompressé, qui est alimenté par qui est jumelé à une boîte automatique 8 rapports et à un rouage intégral de série. C'est un véhicule qui va très bien, qui est assez nerveux, je vous dirais, qui est beaucoup plus sportif, qui fait des accélérations qui sont, ma foi, assez surprenantes et qui, honnêtement, se conduit avec une grande, grande douceur. Alors, c'est vraiment bien agréable. J'ai eu le même feeling avec la version cross-country. Version cross-country qui n'a pas tout à fait la même motorisation. En fait, c'est un T5. Donc, on se retrouve là toujours avec un moteur 4 cylindres 2 litres, turbo-compressé seulement, qui fait 250 chevaux et 258 livres-pieds de couple. C'est cependant un véhicule qui, encore une fois, en a quand même. Dans le ventre, là, on s'entend pour dire que c'est pas un véhicule qui fait pitié au niveau des accélérations. Même transmission automatique, rouage intégral qui est un peu plus perfectionné parce que on a un mode hors route avec ce véhicule-là et on a aussi une capacité de contrôle en descente ainsi qu'une garde au sol qui est plus élevée. L'idée, c'est que on veut vous inciter à sortir un peu de l'autoroute pour aller dans des routes de chalet un peu plus accidentées. Vous aurez compris qu'il ne s'agit pas d'un véhicule capable de vous amener dans les grandes extrêmes. Au contraire, c'est un véhicule qui va vous, à la limite, là, vous amener dans quelque chose d'assez léger comme hors-route, mais qui est quand même, ma foi, fort intéressant et honnêtement, très, très, très confortable. Moi, j'adore. Écoutez, chez Volvo, on a un design intérieur qui est absolument magnifique, épuré, raffiné, gracieux, totalement scandinave. Alors, j'adore ça. Les sièges qui sont toujours parmi les plus confortables de l'industrie. Encore une fois, moi, je suis tout à fait flabbergasté d'autant de qualité. Alors, ça, j'adore ça. J'aime l'espace intérieur. Oui, il y a de l'espace de chargement. Pas autant qu'on pourrait le croire dans une familiale, mais il y en a quand même. Et honnêtement, c'est la qualité de la conduite et la qualité du roulement de ce véhicule-là qui est exceptionnelle. Ajoutez à ça, je vous l'ai dit, un look intéressant et vous avez un véhicule qui est, ma foi, fort, fort intéressant, dont le prix varie de 45 à 57 000 ou à peu près. Là. C'est à peu près le prix que l'on peut élaborer. Donc, j'ai beaucoup aimé ce véhicule-là, ce véhicule Volvo. Honnêtement, je continue mes essais Volvo cette semaine puisque je suis avec le XC90 qui est le grand utilitaire sport dont j'aurai l'occasion de vous reparler aussi au cours des prochaines semaines. Donc, c'est ma période Volvo, je vous dirais. Mais je peux vous dire que le V60, si vous aimez les familiales, c'est définitivement un véhicule. Honnêtement, je pense que c'est jusqu'à maintenant pas mal mon préféré chez Volvo, surtout dans sa version cross-country. C'est un véhicule qui m'a fortement, fortement impressionné. Le bémol chez Volvo, il est toujours le même. C'est de chercher les commandes parce que le tableau d'affichage central est une espèce de tablette numérique avec trois panneaux et il y a des choses qui ne sont pas simples à trouver. Entre autres, j'ai l'impression que dans le XC90 actuellement, je n'ai pas vérifié dans les autres, là, mais qu'on n'a pas mis de radio AM du tout. Alors, s'il y en a une, je ne l'ai jamais trouvée. Je cherchais la radio-circulation puis je n'ai pas été capable de la syntoniser pas une seule fois. Mais il y a beaucoup de systèmes comme ça. Il y a trois panneaux différents de commandes. C'est un peu complexe à aller chercher. Même après deux semaines passées au volant de ce véhicule-là, je me cherchais encore. Alors ça, c'est à mon sens la difficulté. Je trouve que l'ergonomie, l'interface comme telle du système multimédia n'est pas optimale, mais c'est quand même un véhicule qui est magnifique, qui est intéressant et qui est super le fun à conduire. Alors voilà qui met fin à cette émission de Ça roule radio pour cette semaine. Je vous ai promis qu'il y aurait des changements. Il y en aura effectivement au cours des prochaines semaines. Pourquoi? Parce que depuis que mon ami Luc m'a quitté, je vous avoue que je trouve les émissions un peu longues. Je suis persuadé que vous aussi, ma voix charmante étant ce qu'elle est. Alors, la semaine prochaine, on fait un spécial Route 66. Alors, je serai en compagnie de Jacques Deshaies et on va être dans la voiture. Alors, on va espérer être en mesure de vous le transmettre à temps puisqu'on ne sait pas exactement où on sera rendu sur la route et de ce dont il sera question. Donc, on se lance un peu à l'aventure et ça devrait être le fun. Et par la suite, il y aura avec moi quelqu'un qui est un Français, je vous le dis. Il s'appelle Guillaume Lorrain. C'est un animateur de radio dans la région de Toronto. C'est un francophone, vous aurez compris. C'est surtout un maniaque de voitures, mais pas un maniaque de voitures comment je pourrais dire, c'est un homme qui aime l'histoire, qui connaît l'histoire de chacun des modèles et qui a une fascination littérale pour chacun des véhicules et avec qui je fais des chroniques ailleurs depuis quelques années déjà et qui avait à plusieurs reprises manifesté l'intérêt de se joindre à nous sur le podcast. Alors, on va essayer avec Guillaume de vous trouver quelque chose, une formule un peu différente peut-être. Et si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on aborde, j'aimerais ça que vous me les fassiez parvenir parce qu'on va essayer évidemment d'élargir un peu notre style aussi, d'aller peut-être chercher des nouvelles thématiques. Alors, vous pouvez me faire parvenir tout ça à info@saroulradio.com, sur ma page Facebook Marc Bouchard, sur la page Facebook de Ça Roule Radio ou encore, bien sûr, par Twitter, Marc souligné Bouchard ou Bouchard souligné Marc sur Instagram. Alors, voilà qui met fin à cette émission. La dernière du mois de novembre pour Ça Roule Radio. J'espère que vous avez apprécié. On se redit donc à la semaine prochaine en direct de la route.